Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La Bible le déclare. Un jour, Jésus-Christ reviendra. Toutes choses alors deviendront nouvelles.
Beaucoup s'interrogent sur la nature de la nouvelle création et de la vie éternelle. Fort heureusement, la Bible nous apporte quelques réponses à ce sujet. Elles se trouvent essentiellement dans le livre de l'Apocalypse. Dans la série que nous continuons aujourd'hui, nous allons nous pencher sur quelques textes qui nous éclaireront sur notre espérance éternelle.
Toutefois, auparavant, Sandra va nous lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, les versets 1 à 6 et 14 à 15. Puis Yann et notre invité Robert nous parleront de la signification de ce texte.
Finalement, l'ange me montra le fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes. Chaque mois, il produit son fruit. Ses feuilles servent à guérir les nations. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. Il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront éternellement. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville.
Merci et bonjour Robert.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Le texte lu se trouve à la fin de la Bible. Il raconte une vision sur la nouvelle création que Jésus met en place dès son retour. Il dépeint la vie nouvelle et éternelle. L'arbre de la vie figure dans ce texte. Oh, cet arbre apparaît aussi dans le livre de la Genèse, chapitres 2 et 3.
C'est exact, Yann. En fait, il existe de nombreux parallèles entre ce texte et les premiers chapitres de la Genèse. On ne peut d'ailleurs pas comprendre les dernières pages de la Bible sans comprendre ses premières lignes.
Rappelez-nous donc la signification de l'arbre de la vie au tout début du livre de la Genèse.
En Genèse 2, Dieu créa le jardin d'Éden, autrement dit, le paradis. Puis il plaça le premier homme, Adam, et Ève, sa femme. Dans le jardin, Dieu vivait en harmonie et en communion parfaite avec ce premier couple. Le jardin était un lieu idyllique où les hommes jouissaient de tout. Dans ce jardin se trouvaient deux arbres d'une importance toute particulière. L'arbre de la vie, dont le fruit permettait aux hommes de vivre à jamais, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont le fruit était interdit, sous peine de mort. Malheureusement, Adam et Ève mangèrent du fruit de l'arbre interdit, et en conséquence, ils connurent le mal. Suite à cet acte de désobéissance, Dieu prononça un certain nombre de malédictions dont nous vivons encore les conséquences aujourd'hui. La domination de Satan et les relations brisées, les douleurs de l'accouchement, une nature qui se détourne aussi contre les hommes, le travail pénible et la mort. Nous apprenons aussi, en Genèse chapitre 3, que Dieu barra tout accès à l'arbre de la vie. Les hommes ne peuvent désormais plus manger de son fruit. Ils ne peuvent donc plus vivre éternellement.
Il est vrai que la désobéissance d'Adam et d'Ève a entraîné dans son sillage des conséquences désastreuses et tragiques. Toutefois, dans le texte lu aujourd'hui, nous retrouvons, me semble-t-il, le paradis, ainsi que l'arbre de la vie.
C'est exact, Yann. Et nous pouvons résumer le message de la Bible ainsi, le paradis perdu et enfin le paradis retrouvé. Quelle espérance merveilleuse! Ce que l'humanité a perdu à cause de la désobéissance, elle peut le retrouver grâce à l'œuvre de Jésus-Christ accomplie sur la croix.
Parlez-nous-en plus en détail.
Il est intéressant de noter que dans la nouvelle création, il n'y aura plus de malédictions. En effet, les malédictions prononcées par Dieu en Genèse chapitre 3, qui annoncent les conflits et les douleurs sur la terre, les maux et les malheurs parmi les hommes disparaîtront lorsque Jésus créera toute chose nouvelle. Voici la liste des malédictions qui se changeront en bénédictions. Satan sera vaincu et anéanti. Il ne dominera plus sur le peuple de Dieu, ni ne pourra désormais exercer une influence sur lui. Les hommes ne connaîtront plus ni conflits, ni difficultés relationnelles. Ils vivront enfin entre eux en parfaite harmonie. La nature ne sera plus non plus une source de souffrance. Les catastrophes naturelles et les maladies disparaîtront. Dans son nouvel environnement, l'homme vivra dans la paix et la sécurité. Chacun vivra de nouveau dans la présence de Dieu. Tous le verront. Tous jouiront d'une communion heureuse et épanouissante avec lui. Et enfin, l'homme ne connaîtra plus la mort. Il vivra à jamais. Il aura de nouveau accès à l'arbre de la vie. Il pourra manger de son fruit. Or, ce fruit permet de vivre éternellement.
Merci Robert. Nous vivrons à nouveau dans le paradis et Dieu habitera parmi son peuple. Mais pour revenir à l'arbre de la vie, le texte lu nous apprend que ses feuilles serviront à guérir les nations. Quel est le sens de ces paroles?
Lorsque Jésus créera toute chose nouvelle, les hommes se réconcilieront avec Dieu, mais aussi entre eux. Dans cet âge présent, les nations se déchirent entre elles. Les conflits, les guerres civiles, des actes de terrorisme et des atrocités sont commises, soi-disant au nom de la religion ou à cause de tensions raciales ou tribales. Cette insécurité accroît la méfiance et les préjugés entre les peuples. Elle aiguise le désir de vengeance aussi. Dans la nouvelle création, toutes ces choses disparaîtront. Une multitude de gens de toute race, issus de toute nation, de toute tribu, y seront présents. Or, tous s'entendront à merveille. Ils vivront devant Dieu dans la paix et la sécurité.
Merci Robert. Une dernière question sur l'arbre de la vie. Nous apprenons qu'il produira 12 récoltes par an, une tous les mois. Qu'est-ce que cela signifie?
Une fois de plus, il est difficile de savoir s'il faut donner à ce détail un sens littéral ou figuratif. Toutefois, je pense que le message est celui-ci. Le fruit de la vie éternelle sera toujours disponible et sa récolte abondante. Ce fruit se trouvera à profusion, en quantité suffisante pour tous. De nos jours, beaucoup s'inquiètent. Ils se demandent s'ils trouveront assez à manger. Trop de gens survivent avec trop peu de nourriture. Toutefois, quand Jésus créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et qu'il établira toute chose nouvelle, alors nul ne manquera plus jamais de rien. Il n'y aura plus non plus de raison de s'inquiéter.
Merci Robert d'avoir répondu à ces questions sur l'arbre de la vie et d'avoir si bien dépeint notre espérance éternelle.
Tout le plaisir est pour moi. Au revoir Yann et au revoir à tous.
Merci Robert. À présent, nous allons passer à notre courte méditation biblique. Nous nous attarderons encore sur les écrits de l'apôtre Jean en parcourant sa première lettre. Mais d'abord, Sandra va nous lire au chapitre 3 les versets 1 et 2. Puis Claude nous fera part de ses réflexions.
Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes. C'est qu'il n'a pas connu le Christ. Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste.
Merci et bonjour à tous. Je voudrais illustrer ces versets en rappelant la parabole bien connue du Fils perdu. Jésus a un jour raconté cette histoire choquante d'un jeune homme qui avait humilié son père en lui demandant sa part d'héritage alors que ce dernier était encore en vie. Après avoir exigé cela, le jeune homme partit de la maison pour vivre sa vie ailleurs et gaspiller tout son argent de façon totalement irresponsable. Complètement démuni, il fut obligé d'accepter un travail mal considéré et fort peu payé. Il songea alors à retourner chez son père. Il regrettait sincèrement de lui avoir fait de la peine. Il reconnaissait ses fautes et en avait subitement honte. C'est pourquoi, Au moment où il a retrouvé son père, il s'est écrié : « Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Mais, surprise, son père l'a accueilli les bras ouverts. Il lui avait déjà tout pardonné. Il lui déclare aussi qu'il refuse de le recevoir en tant que serviteur, car il est son fils, un fils qui jouit toujours de tous ses privilèges. Ce père aime son fils au point de vouloir cacher la honte qui pèse sur lui, au point de lui pardonner toutes ses offenses, au point de lui accorder la chance d'un nouveau départ dans ses relations avec lui. Comment concevez-vous votre relation avec Dieu? Savez-vous que vous êtes enfant de Dieu? Comprenez-vous les privilèges et les joies dont vous jouissez en tant que tel? Parfois, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous n'osons pas croire qu'il nous accueille et nous reçoit comme son enfant. Nous pouvons avoir la même attitude que le fils perdu dans la parabole racontée par Jésus et nous imaginer que nous sommes trop méchants ou minable pour être accepté par Dieu. Non, Dieu vous accueille tel que vous êtes. Il vous aime même tel un père aime son enfant. Nous pouvons imaginer notre relation avec Dieu comme celle d'un serviteur envers son maître. Croyons-nous pouvoir effacer de nos propres efforts nos fautes horribles et regagner la faveur du Dieu vivant? Cela tient de l'impossible. Dieu seul peut nous pardonner nos péchés. Dieu seul peut nous en purifier grâce à l'œuvre de Jésus sur la croix. La relation entre un maître et son esclave est de nature tout autre, aussi que celle qu'un bon père de famille entretient avec ses enfants. Si nous nous approchons de Dieu avec la mentalité d'un esclave, alors nous ne comprenons pas à quel point Dieu nous aime, à quel point il veut nous combler. Les chrétiens auxquels l'apôtre Jean écrit étaient troublés parce que les faux enseignants avaient dévalorisé leur foi. Ils leur avaient suggéré qu'il leur manquait quelque chose. Jean leur rappelle leur véritable identité. Ils sont enfants de Dieu. Que peuvent-ils désirer de plus? En tant que chrétiens, nous pouvons nous sentir petits et faibles, méprisés et en marge de la société. Nous avons alors besoin de nous rappeler qui nous sommes. La Bible déclare que nous sommes enfants de Dieu. Quelle vérité merveilleuse! Quel privilège!
Merci. La prochaine fois, Claude nous parlera de ces versets une fois de plus pour nous expliquer comment vivre à la lumière de cette relation privilégiée. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.